cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 8 janvier 1992.
Problème de l'acte. Premier trimestre, on a un peu déblayé le terrain. Réfléchir sur la question du pourquoi, au sens le plus fort. Le pourquoi de la finalité. Alors, on pourrait simplement se demander génétiquement à quel moment on s'est posé la question du pourquoi, chacun d'entre nous. Petit examen de conscience philosophique. Pourquoi entrer dans la communauté Saint-Jean? Drôle d'idée. Dans la fin du 20e siècle. précise d'abord de la comprendre dans toute sa force. Comment elle naît en nous. Comment chez l'enfant, elle est très forte. Et comment, la plupart du temps, elle disparaît. Je crois que le jour où la finalité disparaît, tout l'appel contemplatif disparaît, tout le sens de l'adoration disparaît. On n'est plus que des êtres d'efficacité. La seule chose qui compte. Et ça, il faut pour chacun d'entre nous, vous voyez, c'est, j'allais dire, le noviciat, notre vie religieuse, notre vie humaine tout court, notre sens. Que lorsque cette interrogation est présente dans notre vie. Autrement, on se laisse mener à droite ou à gauche. Et il y a énormément dans notre vie, énormément de moments où on se laisse mener. Alors, se laisser mener pour un chrétien par l'Esprit Saint, c'est très bien, mais il le sait. On sait qu'il y a une alliance avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Ça, au plan mystique, au plan humain. C'est l'alliance avec nous-mêmes. On est maître de la situation, on ne l'est pas du tout. Et maître de la situation, c'est orienter notre vie dans un sens, vers quelque chose qu'on doit conquérir. Donc, vous voyez, je dirais que durant ce semestre, c'est cette question capitale dont on doit prendre conscience, chacun d'entre nous, vous voyez, c'est l'effort, je vous l'ai dit, je le répète parce que tout le temps reprendre. La philosophie est personnelle. C'est notre intelligence, et puis notre raison. Notre raison, elle est universelle. Tandis que notre intelligence est personnelle. Elle est personnelle dans ce qu'elle a de plus fort, de plus intelligent. Si on ne fait pas l'effort soi-même, on peut tous le faire. Parce qu'on est quand même un animal intelligent. J'espère. Et il s'agit de permettre à notre intelligence d'émerger au-delà de cette pollution au point de vue de la culture qui est si forte aujourd'hui. On empêche les personnes d'être de vraies personnes. On veut qu'ils soient des moutons qui suivent. C'est bien, il suffit de regarder l'Est pour s'en apercevoir. Et on s'apercevra que l'Ouest, c'est la même chose. L'Est a perdu son âme, l'Ouest a perdu son âme. Et qu'est-ce que c'est que perdre son âme? C'est de plus savoir où on va. C'est ne plus se poser la question de notre finalité. Dès qu'on ne se pose plus la question de la finalité, on perd son âme. On n'a plus la force intérieure, vous voyez, de se poser la question, quel est le sens de ma vie? Si on n'a plus la force de se poser la question, quel est le sens de notre vie? On est dépendant de toute espèce d'influence ou toute espèce de sensation. Ah, je suis bien là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis mal là, ça va pas. C'est difficile. Je me suis levé avec. plus d'angoisse. On lutte contre ces angoisses. On doit les conquérir par le point de vue de la finalité. Mais comprenez que c'est le problème ultime de toute notre philosophie. C'est la dernière question. Au plan philosophie première, quand tu es arrivé après la recherche de la substance, on doit se poser cette question-là. Alors, puisque c'est l'ultime question, ça je peux en avoir très nettement conscience, étant donné d'abord qu'au plan philosophique, les topics historiques, c'est-à-dire la réflexion sur les philosophes qui ont pensé le problème, est très vite faite. Aristote, Thomas d'Aquin. Et puis c'est tout. Si vous en trouvez un autre, vous me le direz. Moi, j'en ai pas trouvé d'autre. C'est quand même rare, c'est le seul problème où il y a uniquement Aristote et Thomas d'Aquin. Dans le ciel, ils doivent se regarder. Humblement, on a eu la grâce de découvrir ça. Mais personne d'autre. Et sitôt saint Thomas s'est retombé dans l'aspect métaphorique. La finalité est devenue métaphorique. Alors, ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand vous regardez toute la philosophie européenne. Je ne parle pas de la philosophie de l'Inde. Dans l'Inde, c'est resté plus actuel parce que l'aspect religieux est resté plus profondément dans les traditions. Si tu restes un fait très curieux, le christianisme a mûri l'homme d'une façon telle que l'homme a une peine énorme de s'y maintenir. Alors, corruptio optimi pessima. La corruption de l'Europe, c'est ce qu'il y a de pire. L'Inde n'a pas connu le christianisme au niveau de la communauté, au niveau de l'État. Alors, il se maintient dans une attitude religieuse, tradition religieuse, plus honnête que l'Europe. N'ont jamais monté plus haut. Ça aussi, c'est important de le constater et de voir que nous sommes, chacun d'entre nous, responsables de notre Europe. C'est-à-dire, on ne peut rien politiquement. On peut avoir un peu de lucidité. On peut tous avoir un peu de lucidité. Alors évidemment, on peut prendre la politique de l'autruche. Je ne peux rien faire, donc je ne cherche pas à voir clair. Vous voyez, ça prouve qu'on n'a pas découvert la finalité et qu'on est encore dans l'efficience. Je ne peux rien faire, donc je me couche. Je me mets à plat ventre. Et je me laisse me mener. Alors je suis mollusque. Prend l'âge tout à fait primitif. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Hein. Oui, il faut réfléchir là-dessus. Ça, c'est l'examen philosophique qui va très loin. Trop facile de dire, oh, c'est trop difficile. Ah, attention. Est-ce que vous avez mobilisé toutes vos forces? Et c'est vrai, quand on voit la chute de l'Europe, parce qu'elle est fameuse, hein, cette Europe qui était chrétienne. Quand on regarde l'Inde, ça donne à réfléchir quand même. Et nous sommes dans l'Europe. C'est nous qui la faisons. Comme on fait sa communauté, vous faites le noviciat. C'est pas le permis qu'il fait, c'est vous. On fait le noviciat. On fait la communauté Saint-Jean. Et en Europe, on fait actuellement, c'est la même chose pour l'Amérique, on fait actuellement le sort du monde. C'est peut-être seulement maintenant que la communauté humaine est responsable de son sort. Je crois. Jusque-là, non, mais maintenant, oui. Et c'est très drôle, c'est par le point de vue économique. Ça dégringole, je crois. Et c'est peut-être à cause de ça que seulement maintenant, depuis 100 ans seulement, l'Église a pris conscience de ce que c'était que le travail. Rerum novarum. Ce que c'était que la communauté des travailleurs. Avant, pas du tout. C'est très étonnant. Et ça, ça va avec ce qu'on voit maintenant. C'est que le grand problème, c'est ce problème-là. Et c'est le petit problème. Et c'est devenu un grand problème. Pour la plupart des hommes, vivent uniquement à ce niveau-là. Là, voyez, c'est pour émerger tout cela qu'on se pose la question, pourquoi notre vie humaine, la finalité. Alors, comme c'est un problème ultime, un problème qui achève tout, il faut mettre en jeu toute notre philosophie. Et c'est intéressant, du reste, au point de vue méthode de pensée, de voir que, au point de départ, on regarde les grandes expériences de l'homme pour voir les orientations de la philosophie. Le travail, l'amour d'amitié, la solidarité, ce qui émue, ce qui se meut, tout ça est présent au point de départ. Au point de départ, on a besoin de voir toutes les grandes orientations. Et quand on arrive au sommet de l'interrogation, pourquoi ? En vue de quoi ? C'est la même chose. Le pourquoi qui se traduit en vue de quoi ? En vue de quoi notre vie ? En vue de quoi notre être ? En vue de quoi sommes-nous ? Devant cette question, qui est la question radicale, devant laquelle la plupart des philosophes se sont repliés sur eux-mêmes, n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Puisqu'il n'y a qu'Aristote et Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça que nous prenons Aristote et Thomas d'Aquin. C'est uniquement pour ça. Pas pour autre chose. Une fois qu'on a compris ce que c'était que la finalité et qu'on la voit uniquement traitée dans Aristote et Thomas d'Aquin, on s'y tient. Parce qu'on dit, si on les abandonne, on fera comme les autres. Et on en sera conscient et responsable. T'as déçu. On est responsable de l'orientation de notre vie. Et orienter sa vie, c'est coopérer point de vue chrétien, à notre prédestination. Il y a des moments où on coopère à sa prédestination. Normalement, ça doit être tout le temps. Mais on n'est pas tout le temps conscient de la finalité de notre vie. À certains moments. Alors, on va regarder toutes les grandes parties de la philosophie pour voir comment se pose le problème et pourquoi. Philosophie du travail, de l'activité artistique. On voit très bien que des quantités d'artistes, d'hommes artistes, aujourd'hui, se laissent emporter par le milieu de la culture d'aujourd'hui, si on peut encore appeler ça une culture, le milieu politique, et se réfugie dans l'idéa, dans leur inspiration. C'est le gargarisme de l'inspiration. Là, on est tranquille. Puisque on est dans l'immanence de Lydia. Mais Lydia, quand elle demeure dans l'immanence, elle se corrompt. Ça, on peut tous avoir l'expérience de ça. C'est pas de la haute métaphysique. C'est tout simplement l'expérience du travail. Et c'est tellement important d'avoir l'expérience actuelle du travail. Vous savez bien, les psychologues disent que c'est cela qui nous sauve. Tant qu'un être humain travaille, il est sauvé. Un être humain qui applique le travail, il est emporté par l'ouragan ou par le torrent. Ça aussi, c'est très important de comprendre ça. Parce que le travail nous actue. On est actué par le travail. Mais ce n'est pas la contemplation qui nous rectifie fondamentalement. La contemplation, c'est que l'ultime, on va le voir au terme. Le travail, c'est élémentaire. Un être humain qui refuse le travail n'est plus bon à rien. Il faut humblement, tous les jours, revenir au travail. Tous les jours. Tous les jours, on revient au travail. Un travail qui peut être n'importe quoi. Mais un travail authentique, vrai. Le travail qu'on doit faire. On revient tous les jours à ça. Sonner la cloche quand il faut la sonner, c'est un travail. Hein, c'est évident. Tandis que l'oublier, c'est un manque de travail. C'est un travail. Balayer, c'est un travail. Faire la cuisine, c'est un travail. Un gros travail. On s'actue par le travail. On se réveille. Parce que vous ne travaillez pas quand vous dormez. C'est pour ça que dormir est si agréable, on ne travaille pas. C'est merveilleux. On est au chômage. Et douillé. Il fait chaud, bon, agréable. Tandis que se lever, oh, pire. Il faut se remettre au travail. C'est la première expérience. Très curieux. Mais très étonnante. Dormir et être éveillé pour travailler. Parce que vous n'êtes réveillé que quand vous travaillez. Vous pouvez très bien vous lever et continuer de dormir. Vous êtes un somnambule. C'est quand vous vous mettez à travailler que vous êtes obligé de vous réveiller. Vous pouvez dormir pendant un cours. Vous prenez aucune note, vous. Je ne comprends rien, mais est-ce que vous travaillez? On ne comprend un cours que quand on coopère. Si on ne coopère pas un cours, on ne comprend rien. Mais on laisse couler, on descend le fleuve. Il faut coopérer, et ça c'est le travail. Coopérer un cours, c'est de se dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est? Alors, on note, parce que ça nous aide. C'est le travail de notre main. Et alors, évidemment, on se réveille par le corps. Faut pas oublier. Notre intelligence, quelquefois, ne peut se réveiller par le corps. Le corps, prendre des notes, c'est une expérience tangible. Faut toujours être prêt à prendre des notes un cours. À moins qu'on soit déjà très, très intelligent. Et qu'on soit un contemplatif. Alors là, j'accepte. Mais l'école maternelle métaphysique implique qu'on prend des notes. Parce qu'on se réveille par sa main. C'est bien évident, c'est notre corps, c'est bien. Si vous ne vous réveillez pas à travers votre corps, vous continuez de dormir. Oui, ça c'est le point de vue de l'actuation de notre vie à travers notre corps. Notre corps doit être un corps vivant et pas un tombeau. Or, notre corps est un corps vivant si nous-mêmes nous l'actuons, si on ne l'actue pas. Et en actuant le corps, on actue l'intelligence. Et il faut réveiller l'intelligence tous les jours. C'est ça qui est fatigant. Un vieux moteur, on doit l'actuer tous les jours. Alors, dormir, être réveillé, tiens, il y a là une expérience importante. Qu'est-ce que ça correspond à ça? Dormir, être réveillé. Normalement, on dort, on se repose pour être plus éveillé. Le soir, on est très fatigué, on n'est plus très éveillé. Et on sent très bien que la pollution de la journée, avec le gosse qui ne veut pas dormir, parce que ça, c'est très curieux. Les grandes personnes aiment dormir et les gosses n'aiment pas dormir. Ils n'aiment pas. Et ils luttent et puis alors on voit leurs yeux qui commencent à faiblir. Et selon Rousseau, ma mère me disait ça déjà de ce temps. Alors, selon Rousseau, on ne disait pas à un gosse d'aller dormir, on attendait qu'il roule en dessous de la table. Et à ce moment-là, on le prenait, on le conduisait dormir. Parce qu'il ne fallait pas aller contre sa nature. Parce que sa nature était bonne, tandis que l'aspect conventionnel était mauvais. Bon, on a un peu dépassé ce point de vue de Rousseau. On est tombé dans Freud. Mais... il s'agit de s'éveiller. Mais c'est pas si commode que ça, comme expérience, vous savez. Une expérience élémentaire. Mais il s'agit de s'éveiller. On ne peut rien faire si vous n'êtes pas éveillé. Ça dépend de vous. On s'éveille et on se prend en main. Passage, dormir, être éveillé. Oui, on est tellement habitué à une espèce de... Le petit bourgeois, c'est celui qui ne se réveille jamais. Et il continue. Il passe du lit à debout. Station debout. Et debout. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est le petit bourgeois. Alors, on ne l'est pas, on ne veut pas l'être, parce qu'on sait à quoi ça mène. Alors, on est bon à être mené n'importe où. On veut être éveillé. Si tu restes dans l'écriture, hein. Ça, c'est net. C'est un appel de l'Esprit Saint, être éveillé. Et on fait tout pour ça. Et là, des petites méthodes psychologiques peuvent être très bonnes. Pour la méthode psychologique, la plus élémentaire et la plus fondamentale, c'est ça. Être en acte, donc éveillé, tout simplement. Soyez éveillé pour tout ce que vous faites. Vous suivez un cours, soyez éveillé. Alors pour nous doublement, puisque c'est notre devoir d'État. Et alors, si on ne l'est pas, ben, oui, on perd son temps. Et perdre du temps, alors au plan chrétien, perdre du temps, c'est laisser du terrain au démon. Le démon ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'on perde du temps. Le démon ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'on soit des somnambules, debout et en dormant. Il n'aime pas qu'on soit éveillé. Alors, vous voyez, cette première expérience est très très radicale. Et qu'on fait tous les jours ce qu'il y a de bon. Tous les jours, faites cette expérience, du moins j'espère. Parce que si vous êtes somnambule jusqu'au soir, c'est ennuyeux. Voir comme je te pousse, puis ça y est. On a envie de temps en temps de pousser, tu vois, il y a une porte là, tu l'as pas vue. Réveille-toi. On le fait pas, parce qu'il faut pas. Pas de violence, surtout pas de violence. Mais, s'il n'y a pas à l'intérieur un désir de s'éveiller, vous tentez les gens. Parce qu'eux sont éveillés, puis pour quelqu'un qui n'est pas éveillé. Être éveillé par la main, hein, n'oubliez pas ça. L'homme, c'est l'intelligence liée à la main. Et donc l'éveil se fait par la main. Essayez de comprendre ça dans votre vie, pour voir tous les moments où vous vous éveillez. Et le premier réveil, c'est le travail. Tant que vous n'avez pas travaillé. Alors, vous allez me dire, mais c'est ennuyeux pour nous. On s'éveille et puis on va à l'horizon. Ah, c'est pas logique du tout. On devrait s'éveiller, aller tous à la cuisine et travailler. Hein? On devrait tout de suite, parce que c'est la main et le pied, à faire de la gymnastique pour se réveiller. Hein? Les Grecs faisaient ça. Premier moment, la gymnastique pour se réveiller. La gymnastique oblige de vous réveiller. C'est le corps qui se réveille. 10 minutes de gymnastique pour se réveiller. Pour certains, c'est nécessaire. Il se réveille juste à 6 heures, 10 minutes de gymnastique, puis après, vite, l'oraison. C'est peut-être nécessaire pour certains. Pour d'autres, non, ils sont déjà habitués. Mais peut-être qu'en sortant d'un monde somnambule, c'est nécessaire de faire 10 minutes de gymnastique. Parce que c'est le corps qui nous réveille. On a besoin de ça. Si notre corps continue de somnambule, on sera somnambule toute la journée. Et le démon rira de tout ça. Hein? Ce moine somnambule. Alors il dira au bout d'un certain temps, je n'ai pas la vocation. C'est bien évident. On a la vocation que si on est éveillé. On est responsable de ça en face de Dieu. C'est très très curieux ça. Il faut prendre conscience de ça. Oui, c'est le premier moment où on prend conscience de ce que c'est que l'acte. C'est une chose curieuse. On passe d'un état de sommeil à un état d'être éveillé. Et il y a des personnes qui n'ont jamais pris conscience de ça. Et qui restent somnambules toute leur journée. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il y a un dégoût généralisé. Parce qu'on ne s'intéresse à une chose que si on est éveillé. Et la plupart du temps, si on ne fait pas grande attention à ça, vous voyez, le dégoût prend possession de tout. C'est pas du tout la sédie hein, des mystiques. Oh non, c'est très bas, c'est la boue. On a les pieds trempés dans de la boue. On n'avait pas le courage de les nettoyer. On reste les pieds dans la boue, complètement. Je crois que c'est très important pour nous. Oui, c'est la première éducation philosophique fondamentale. Si on avait ça, on aurait beaucoup moins besoin de psychologie. Parce que ça, on rejoint là, fondamentalement, être éveillé. Bon, prenez conscience de ça. Vous ne prendriez conscience que de ça. Dans tout ce cours, ce serait beaucoup. Parce que vous passeriez du petit bourgeois à l'athlète. Et ça serait quand même quelque chose, hein. Parce qu'on devient petit bourgeois, c'est ça qui est terrible. Et la vie religieuse peut favoriser le petit bourgeois. Terrain glissant. Parce que tout est servi. Il y en a un qui était à la cuisine toute la journée, tout est servi. Et vous ne faites que manger, société de consommation du petit bourgeois. Tout est prêt. Et puis ça c'est merveilleux. Alors, on s'endort, au bout de 3 mois, je n'ai pas la vocation. Pas étonnant. Tu ne t'es pas réveillé. Oui, on est responsable de pouvoir s'éveiller. Une responsabilité élémentaire, mais très, très importante. Et ça, ne disons pas qu'on n'a pas le courage de ça, hein, et qu'on n'a pas la capacité de ça. On a tous cette capacité élémentaire de s'éveiller, je crois. Sauf si on est complètement mourant. Alors à ce moment-là, c'est plus le petit bourgeois, c'est celui qui part pour le ciel. Allez. travailler. On travaille en vue d'une œuvre. Ah, en vue de. On travaille en vue d'une œuvre. Demandez au cuisinier s'il ne sait pas ce que c'est que le travail. En vue d'une œuvre. L'œuvre, c'est le repas. Qu'il soit cuit à point. Qu'il soit bon. Pas seulement qu'il soit beau. Il doit dire comme le cuisinier doit pouvoir dire comme Dieu, Valdemonum, c'est très très bon. Après son travail. Pas seulement, parce que quelquefois, il doit dire, regardez comme c'est beau. Oui, c'est détestable. Et alors, vous allez empoisonner toute la communauté. C'est très beau. Ça, c'est le démon qui dit ça. C'est le serpent. Il sait beau. Le langage des deux. Hein. L'œuvre est bonne. Une œuvre. L'œuvre la plus élémentaire, le pain. Puisque c'est le symbolisme de toute l'œuvre, le pain. Faire le pain. Alors, ce pain est bon. C'est quelque chose. Vous voyez, on travaille en vue d'une œuvre. Vous avez donc là deux moments extrêmement intéressants. Très différent, hein? Très différent. Je me réveille en travaillant. Et je me réveille parfaitement en vue de l'œuvre. Le passage de celui qui dort à celui qui est éveillé. Vous ne pouvez faire de la philosophie que si vous êtes éveillé. Condition sine qua non. Vous ne faites jamais de philosophie en dormant. Et vous ne pouvez faire de la philosophie que si vous êtes éveillé. Et que si vous-même, vous voulez être éveillé. Parce que vous ne vous éveillez pas tout seul. Il faut vouloir être éveillé. Il faut être en acte dans l'éveil. Et ça, c'est, je vous affirme, c'est très élémentaire, mais c'est les choses élémentaires qu'on oublie le plus. Alors on prend des médicaments pour être éveillé et être de bonne humeur, et on oublie que ça dépend de nous. Comment voulez-vous être de bonne humeur si vous êtes somnambule toute la journée? Parce que vous aurez en vous cette conscience profonde que vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Et vous serez de mauvaise humeur. Pourquoi un peu de gymnastique nous fait du bien? Parce qu'on s'éveille. On se réveille. Par la main. Par le pied. Par le corps. On doit utiliser notre corps pour le bien. Vous voyez, c'est très élémentaire et c'est fondamental. Le passage dormir et être éveillé. Et une fois qu'on est éveillé dans le travail, c'est le premier éveil. Cherchez pas à dire je suis éveillé, je médite. Et non, 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 faut continuer de dormir. C'est vrai. Pourquoi de temps en temps on continue de dormir à l'horizon? Parce qu'on n'a pas été vraiment éveillé. On n'a pas voulu être éveillé. On a passé tout simplement d'un état de demi-sommeil. On peut s'habiller automatiquement en somnambule. On peut aller au cœur en somnambule. On dit, ah, j'ai beaucoup de peine au cœur de faire horizon. Mais est-ce que vous êtes éveillé? Première question. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Vraiment? Ou est-ce que vous êtes resté dans état somnambule? Le travail en vue de l'œuvre. Voyez, le passage en vue de. Vous dormez en vue de vous réveiller. Ne vous dites pas ça le soir. Parce qu'alors, quelquefois, ça vous empêcherait de dormir. J'ai tellement peur de ne pas me réveiller demain. Alors, j'aime mieux tout de suite le soir. Attention, non, non. Vous devez vous reposer. Alors, on se repose. Mais on se réveille. Et on travaille en vue de l'œuvre. Donc, c'est très présent, la finalité, dans l'activité artistique. Oui, je crois, personnellement, que les philosophes ont perdu le sens de la finalité. Parce que on n'a plus fait une philosophie du travail. On n'a plus fait une philosophie d'activité artistique. C'est complètement tombé dans l'oubliette. Et alors, si on n'a plus découvert la finalité dans la philosophie du travail, découvert que le travail artistique est en vue d'une œuvre. L'autre jour, j'ai discuté là-dessus, parce que je fais ce cours-là à Raymond. Difficulté énorme. Non, l'artiste fait quelque chose de beau, il ne fait pas une œuvre. Voyez combien l'idéa empêche de voir l'œuvre. On projette l'idéa. Alors on dit, je veux faire quelque chose de beau. Mais non, faites une œuvre d'abord. Et c'est l'œuvre qui actue votre travail. C'est l'œuvre, une œuvre qui se tient. Et cette œuvre, parce qu'elle se tient, sera belle. Elle sera agréable. On ne fait pas le beau, sauf le chien. On fait une œuvre. Et en faisant une œuvre, c'est très très important parce que c'est par là que la finalité, le sens de la finalité était perdu. Et on est tombé dans l'esthétisme. Dans quelque chose de beau, vous voyez. On est revenu à l'âge animal. On a glissé. On a oublié que le travail, l'activité artistique est en vue d'une œuvre. Et c'est l'œuvre qu'on regarde. Celui qui travaille en regardant le ciel. Ah, c'est beau le ciel. Mais vous ne travaillez pas du tout. Vous êtes un somnambule. Espèce de somnambule. Vous ne travaillez pas du tout, vous restez dans votre idée. Et justement, le travail fait quitter votre idée. Pour regarder la matière. C'est la matière que vous travaillez. Et la matière, il faut savoir ce que c'est. Parce que ça ne se cuit pas tous de la même façon. Il y a des matières qui ne peuvent pas se cuire. Et puis il y a d'autres qui peuvent se cuire. Il faut regarder la matière quand l'œuvre, c'est un regard sur la matière. Et ça, c'est capital. Ce n'est pas la matière qui me donne le sens de l'acte. Et la matière coopère à mon travail pour qu'il y ait l'œuvre. Et si on n'a pas le sens de la matière, on n'aura pas le sens de l'œuvre. Les vrais travailleurs le disent et le savent. Si on n'a pas le sens de la matière, on n'a pas le sens de l'œuvre. Et c'est cela l'idéalisme esthétique. L'idéalisme esthétique, c'est qu'on n'a plus le sens de l'œuvre. Et par le même temps, on a perdu le sens de la main, du travail. Il y a quelque chose là de capital pour nous. Et je dis c'est capital pour la vie humaine. Pour la vie humaine tout court. Si on n'a pas ça, on sera malheureux toute sa vie. Absolument. Parce qu'on sera emporté par tous les courants. La seule manière d'être soi-même, c'est de découvrir l'acte au niveau le plus simple qui soit. Dans le travail, l'œuvre. Et être éveillé. Vous avez là deux pointes tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Mais c'est quand même deux points essentiels qui sont au-delà monde intelligent qui ne s'éveille jamais. Ils n'ont pas cette force intérieure pour se réveiller. Ils accusent les autres. Ah, c'est trop dur. Est-ce que vous avez essayé de vous réveiller? Oh, c'est impossible. Est-ce que vous avez travaillé? Un travail humble, c'est pour ça que c'est nécessaire tous les jours d'avoir un travail. Parce que écouter un cours, c'est du travail. Mais c'est un travail qui est déjà très, très évolué. C'est très évolué d'écouter un cours. C'est merveilleux comme éducation. On a là un temps merveilleux pour s'éduquer soi-même. Parce que c'est pas si commode que ça d'écouter un cours. Écouter un cours de philosophie, c'est pas commode. Mais on acquiert ça. Faut pas croire que dès le point de départ, ça ne me dit rien. Mais est-ce que vous avez coopéré? Ah non, je continue de dormir. Ben alors, évidemment. Allez à la cuisine et continuez de dormir, vous verrez, hein, la casserole que vous recevrez sur la tête. C'est-à-dire quoi? Au cours, non, on lance pas des casseroles. Des casseroles philosophiques, intentionnelles. Mais on reste dans l'intentionnel. Il faut coopérer au cours. Ça, j'y tiens beaucoup. Vous voyez, ça vous éduque dans la mesure où vous coopérez. Si vous ne coopérez pas, ça ne vous éduque pas. C'est du temps perdu. Alors, et ça, c'est élémentaire de découvrir ça. Maintenant, je regarde autre chose. Après le cours. Je regarde quelque chose après. Je regarde le point de vue de l'amour d'amitié. Vous voyez, parce qu'au fond, notre philosophie repose sur une philosophie pratique. C'est pour ça que quand on dit « j'arrive à rien comprendre dans la philosophie », ça prouve qu'on n'a pas fait l'effort. Je regrette, on n'a pas fait l'effort. Parce que tous, nous pouvons comprendre la philosophie du travail et la philosophie de l'activité artistique. Tous. On peut comprendre la philosophie de l'amour d'amitié. La métaphysique, c'est différent. Je comprends qu'il faut du temps. Mais on revient tout le temps à la philosophie humaine, à l'anthropologie. On est tous quand même un peu intelligents. Et donc on peut tous réfléchir sur cette expérience. Tous les matins, être éveillé. Mais pour ça, il faut être éveillé, pour en avoir l'expérience. Tous, on peut comprendre que le travail est en vue de l'œuvre. Pour ça, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, si vous travaillez comme un mollusque, vous n'avez aucune expérience de l'œuvre, parce qu'elle ne sort jamais. Vous avez peur de la matière. Vous avez peur de vous affronter à la matière. Et c'est vrai, il faut s'affronter à la matière. Et la matière, c'est pas commode. Il faut s'y affronter pour arriver à réaliser une œuvre. Si on ne s'affronte pas à la matière, pas d'œuvre. Vous voyez, les deux côtés, hein, on voit combien l'expérience réclame une certaine maîtrise de soi. Là, vous allez dire, mais moi, j'ai aucune volonté. J'ai aucune volonté, on n'a jamais appris ce que c'était que la volonté. Je dis, apprenez-la tous les jours. Tous les jours, vous pouvez faire un acte volontaire de vous éveiller. Tous les jours, vous pouvez faire un acte volontaire de travailler. Tous les jours, et ainsi de suite. Ça s'éduque. On éduque sa volonté. C'est notre propre auto-éducation. Vous voyez, si on ne coopère pas dans l'éducation, ça coule comme sur les plumes d'un canard. Alors il n'y a rien. Mais alors on est malheureux pour toute sa vie. Hein. Toute sa vie on sera à la remorque des autres. Et on ne les portera pas. Alors on est heureux que si on porte les autres, que si on les aide, parce qu'alors à ce moment-là, il y a quelque chose de nous. Seconde grande expérience, l'amour d'amitié, l'éthique. On est parti de là, hein, de l'éthique. En éthique, l'amour d'amitié me met tout de suite en présence de l'ami. Alors là, vous voyez, c'est là où il y a quelque chose de très important à saisir. Je peux prétendre aimer quelqu'un et en réalité je ne l'aime pas. Je m'aime. Cet égocentrisme qui est analogue au sommeil. C'est l'analogue du sommeil. Moi, je ne suis bien qu'avec moi-même. Et je ramène tout à moi. Ça, c'est le sommeil. C'est le sommeil éthique. Sur moi-même et je m'aime et on n'a jamais rencontré l'autre pour lui-même, on n'a jamais découvert l'autre pour lui-même, on n'a jamais fait un acte de générosité pure, c'est-à-dire de dépassement complet. On se regarde soi-même dans la glace intérieure. Et on est bien avec soi. Et on ne se regarde uniquement soi-même. On ne veut absolument pas que l'ami nous secoue en nous attirant. Vous voyez, cette chose extrêmement importante. L'expérience éthique, l'expérience morale n'existe que s'il y a un amour spirituel. Tant qu'il n'y a pas d'amour spirituel, il n'y a pas d'éthique. Comment se fait-il aujourd'hui ? C'est un fait qu'on constate, pas seulement ici, hein, partout. Certains font profession perpétuelle avec un très grand zèle. Il y a des témoins. Et puis, un an après, la profession est comme gommée. Comment se fait-il que certains se marient avec beaucoup de joie en disant qu'ils choisissent vraiment leur épouse pour la vie? Un an après, c'est gommé. Et quelquefois, avant un an, 6 mois, 1 mois. C'est un fait, on constate ça aujourd'hui, partout, partout, dans tous les domaines. Le philosophe doit quand même s'interroger. C'est une contagion, ça. Ce manque total de fidélité. On ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est que la fidélité. On a pris l'habit, mais pour être au noviciat. Puis au bout de 3 jours, on dit, ah, c'est trop dur. Mais quoi ? Est-ce que vous avez essayé ? Ah non, c'est trop dur. On n'a même pas l'expérience que c'est trop dur. On le dit. On n'a pas l'expérience, puisqu'on n'a pas mis une petite voix dedans, dans l'engrenage. Vous voyez, on ne s'engage plus. On vit de parole, mais on ne s'engage plus. On reste dans la parole, donc dans ce point de vue de l'atmosphère polluée, puisque la parole est terriblement polluée. Si la parole n'était pas polluée, quand on s'engage, quand on dit oui, on sait que ce oui prend toute notre vie et on aimerait mieux crever que de ne pas être fidèle à sa parole. Dans le sens propre. Vous voyez ? Alors on peut être malade, ça c'est différent. Mais là ça se fait, ça? Mais c'est comme celui qui reste somnambule toute la journée. C'est du même ordre. Il y a un somnambule affectif. Il faut le dépister, le somnambule affectif, qui ne rejoint pas la réalité. Et qui n'arrive pas à rejoindre la réalité. Et ça, c'est contagieux aujourd'hui. On reste dans l'intentionnalité, le vécu. Mais la phénoménologie a aidé beaucoup à ça. Elle continue d'aider beaucoup à ça. On reste là. C'est très séduisant. C'est très agréable. Et on analyse ses états. Comme si c'était intéressant. On analyse ses états d'âme affectifs. Et on n'a plus aucun contact avec l'ami.